Giancarlo Zuma, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes porte-parole adjoint de la conférence de Rio plus 20 sur le développement. Nous sommes en pleine préparation de cette conférence sur les négociations finales entre États membres. Ils sont apparemment d'accord sur 20% du texte final. 80% du texte final fait l'objet de contentieux. Quelle est la teneur de ces négociations? Elles achoppent sur quoi et quel est le problème qui se pose en ce moment?
Eh bien, maintenant, en fait, on a un accord sur les 28% du document final. Quand on est arrivé à Rio, il y avait déjà un accord de délégation sur environ 25%, quart du document. Et donc, il y a eu un peu de progrès, et pas trop, en fait. Et ça, la négociation s'avance un peu trop doucement. Et donc, enfin, on ne va pas terminer dans les périodes formellement été prévues pour la négociation. On va en fait devoir travailler pendant les prochains jours à Rio et la négociation continue jusqu'en fait à l'arrivée de chefs d'État. Et ça, c'est quand commence en fait la conférence elle-même, la conférence, les 20. Et donc la négociation va continuer les prochains 3 jours sous la présidence du Brésil. Le Brésil, c'est le pays hôte de la conférence. En fait, la présidente Dilma sera aussi la présidente de la conférence à partir du 20 juin. Et donc la diplomatie brésilienne se va prendre charge d'organiser et essayer de pousser en fait la négociation dans les prochains jours. Et en fait, il y a 2 enjeux très importants dans les documents, dans la négociation. Et il a en fait des points qui sont de la partie document qui sont plus ou moins prêts. En fait, il y a seulement des questions sémantiques, il faut changer peut-être des adjectifs, etc. Mais il existe des questions sur lesquelles il y a en fait des divisions plus ou moins profondes entre pays, au bloc des pays, au bloc en fait aussi dans le sud du monde, les pays en développement, les pays plus riches, etc.
Quels sont les sujets de contentieux aujourd'hui, Giancarlo?
Les questions un peu plus compliquées sont le financement du développement durable et de la transférence de technologies sur l'énergie renouvelable, des autres technologies avancées qui vont être utilisées pendant les prochaines années, essayer en fait d'avoir une économie plus verte, plus en fait respectueuse de la nature. Et donc ça, c'est une question qui est très importante, surtout pour les pays africains qui sont en fait les pays qui ont plus besoin d'en savoir des flux de capitaux. Parce qu'en fait, en Asie, en Amérique latine, il y a des possibilités de financement sur les marchés internationaux. Et en Afrique, c'est un peu plus difficile. Mais ça, il est en question. Il y a eu proposition du groupe des 67 plus la Chine pour créer un fonds de 30 milliards de dollars pour financer tout ça. Et sur ça, il y a des pays développés qui sont plus hésitants, donc il y a la crise économique, des problèmes. Donc ça, c'est une question. Il y a la question de la définition de l'économie verte. Ça veut dire quoi? Il y a là aussi en fait des différences de perception. Les pays européens, les pays plus développés, et ils sont beaucoup plus sur ce concept de l'économie verte. Il a un peu de réticence des pays en développement qui a le concept d'économie verte pour être utilisé comme quelque type de barrière au commerce, comme quelque type de protection commerciale.
Donc en gros, ils disent aux pays développés, si vous voulez qu'on se lance dans l'économie verte, il n'y a qu'à nous financer, à nous aider, c'est cela?
Bon, en gros, en termes diplomatiques, en général, on utilise des mots plus, un peu plus délicats, si vous voulez, mais oui, en gros, c'est un peu ça. Et il y a des autres questions, aussi plus des principes, qui sont l'implémentation et aussi la réaffirmation du principe de Rio d'il y a 20 ans, de Rio 92. Donc, en fait, il y a toute une série d'accords, de conventions sur le climat, la biodiversité, la désertification, etc. Il a donc des groupes de pays qui pressionnent pour réaffirmer de façon très énergique ces questions de principes de Rio. Il a des autres pays qui sont un peu plus hésitants. Mais en fait, les enjeux ici ne sont pas seulement de diplomatie classique. On parle ici vraiment de la façon avec laquelle on va construire le monde, la planète de prochains 20 ans. Et en fait, c'est un enjeu vraiment planétaire, un enjeu générationnel. Et en fait, l'exhortation que les Nations Unies font à tous les pays qui sont maintenant ici en train de négocier sur les documents, c'est de faire un effort et d'aller dessous en fait, des intérêts plus, en fait, plus petits, si on veut, des intérêts de court terme, mais de penser en grand, sur les grands enjeux, sur le futur du monde, sur le futur que nous voulons. On espère qu'avec la proximité de l'arrivée des chefs d'État, des chefs de gouvernement, il aura cette capacité de négociateur regarder l'ensemble de la question, pas seulement des questions très spécifiques pour être de l'intérêt national.
Mais avant l'arrivée des chefs d'État, je présume que le Brésil va faire usage de tout son art, de la diplomatie, de savoir-faire. Ce pays quand même qui est la principale économie, la plus grande économie d'Amérique latine, ce pays émergent. Quel est le rôle que peut jouer le Brésil pour convaincre et faire avancer les négociations? Est-ce qu'on peut s'attendre à des remèdes miracles de la part du Brésil ou pas?
En politique, les miracles ne sont pas fréquents, mais le Brésil, c'est un pays qui a en fait un ballon très important à offrir, à montrer au monde. Ce n'est pas par hasard que la conférence est à Rio. C'est pas... Donc ça, c'était en fait une proposition que l'ancien président brésilien Lula avait fait à l'Assemblée générale de l'ONU, qui était très bien reçue et approuvée pour l'unanimité de réaliser cette conférence à Rio. Et pourquoi ça? Parce que le Brésil, c'est un pays qui dans les dernières années a démontré qu'il est possible de concilier le développement économique, le développement social, c'est-à-dire la diminution des inégalités, et la protection de l'environnement. Et ce sont les trois principes du développement durable, le développement économique, social et avec protection de l'environnement. Et le Brésil a démontré que ça c'est possible avec des politiques publiques cohérentes, et avec des politiques publiques en fait, qui sont ciblées pour cet objectif, oui, est possible. Ce n'est pas un rêve, ce n'est pas une utopie, mais c'est dans la possibilité de la politique. Donc, en fait, à partir de sa propre expérience, que le Brésil va essayer en fait, d'utiliser toute la grande tradition diplomatique brésilienne, les grands charmes brésiliens et l'expérience concrète qu'ils ont accumulée dans les dernières années pour dire oui, ça c'est possible, il faut faire des choses, il faut faire des choix, mais on ne parle pas d'utopie, on parle de politiques concrètes réalisables. Et en fait, tous ici à Rio attendent beaucoup de cet effort de leadership que le Brésil, on espère, pourra faire, pourra démontrer en fait, d'être comme il est, un grand pays, pas seulement pour sa dimension, pour sa économie, aujourd'hui la sixième économie la plus puissante du monde, mais aussi un grand pays avec un poids très important, croissant dans la scène politique internationale.
Merci beaucoup, Giancarlo.
Merci à vous.